chronique en droit du travail avec un sujet passionnant et intriguant cette semaine. Maître Philippe Coderre de la firme d'avocats La Pointe-Beaulieu est avec nous en studio. Salut Philippe.
Salut.
On va parler de filature et d'espionnage. Convaincu qu'on a l'attention des auditeurs, Philippe. Première question, est-ce que c'est plus fréquent qu'on pense, cette méthode-là, Philippe?
La filature, en fait, c'est la surveillance des employés, là, souvent en dehors du lieu de travail, là. Et c'est quelque chose qu'on voit, je dirais pas nécessairement à tous les jours, à toutes les semaines, mais c'est quelque chose qu'on voit très fréquemment quand même, parce que naturellement, les employés ont l'obligation de fournir une prestation de travail. Et des fois, pour contrôler cette prestation de travail-là, l'employeur a des motifs pour justifier ces filatures-là à l'extérieur du bureau. Donc, c'est pas aussi rare que les gens peuvent se l'imaginer.
Évidemment, c'est encadré par la loi. Alors, dans quel contexte un employeur peut faire suivre un employé sans atteindre sa vie privée?
En partant, c'est une atteinte à la vie privée dans tous les cas. Donc ça, c'est le test a deux étapes, là. Le premier, c'est de demander est-ce que je porte atteinte à la vie privée de l'employé. La réponse est oui. Cependant, ça peut être justifié. Et ça, c'est la deuxième portion du test qu'il faut faire lorsqu'on veut faire suivre un employé. Je vous dirais que ça prend des motifs qui sont raisonnables et qui vont souvent faire appel à un doute quant à la loyauté et le manque d'honnêteté de l'employé. En lien avec le travail, naturellement. Donc, c'est sûr que vous ne pouvez pas faire suivre votre employé pour savoir s'il commet de l'adultère. Ça n'a pas rapport avec le travail.
C'est pas de vos affaires.
C'est pas de vos affaires. Sauf que si vous avez des doutes quant à, par exemple, à un vol que l'employé pourrait faire chez vous, puis après ça, il pourrait amener ça chez lui, puis vous voulez le faire suivre pour confirmer ça, dans ces cas-là, ça peut être légal et permis.
Parce que le doute, on a l'impression que c'est une zone grise un peu. Alors, pour comme employeur, là, si on veut être sûr que la filature est légale, qu'est-ce qu'on doit savoir?
En fait, ça vous prend des motifs antérieurs à l'enquête. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir vos motifs après l'enquête. C'est-à-dire, je fais mon enquête, là, j'ai découvert ce que je voulais découvrir, mais j'ai été chanceux de le faire. Il faut avoir des motifs à l'avance. Ces motifs-là, souvent, ça provient d'informations d'autres employés qui vont venir vous partager des rumeurs. Ça peut être des choses que vous avez découvertes sur Internet. Ensuite, ça prend un lien rationnel. C'est-à-dire que si vous voulez vous assurer que l'employé ne vous vole pas du temps sur les lieux de travail, c'est pas rationnel de le faire espionner à l'extérieur des lieux de travail. Il faut vraiment que ça soit rationnel. Et l'atteinte doit être la moins intrusive que possible. C'est-à-dire, si je décide de faire suivre la personne, je peux pas commencer à mettre des micros chez lui en dedans.
Ouais, ou des caméras à l'extérieur, mais qui filment dans sa maison.
Ça serait poussé un petit peu, exactement.
Bon, les cas typiques qui reviennent là, plus fréquemment, c'est quoi?
Je vous dirais quasiment tout le temps, accident de travail. C'est-à-dire un employé qui a un billet du médecin qui dit qu'il y a certaines limitations fonctionnelles au bureau. Donc, par exemple, il ne peut plus marcher. Donc, à cause de ça, soit il faut qu'il y ait un autre poste, soit il faut qu'il reste à la maison. L'employeur doute de la validité du billet médical. Il y a quelqu'un qui lui partage, « Hey, j'ai vu telle personne, il jouait au soccer ou il jouait au volleyball en fin de semaine. » Bien là, ça, c'est un cas typique où on va faire suivre l'employé par un enquêteur pour justement déterminer et démontrer qu'il n'y a pas de limitation fonctionnelle, que ce qu'il raconte à l'employeur, finalement, c'est un mensonge. Et ça, c'est naturellement le manque d'honnêteté. C'est une sanction, c'est sanctionnable en droit du travail.
Un monde assez mystérieux là, pour les gens qui nous écoutent. Là, une filature, comment ça se déroule, Philippe?
On va mandater une firme privée. Soit l'employeur va le faire directement ou c'est ses avocats conseils là, qui vont le faire. On donne un mandat très clair, c'est-à-dire on veut qu'il vérifie quelque chose de précis. On veut pas une partie de pêche. L'enquête doit être limitée dans le temps. On peut pas faire suivre quelqu'un pendant 6 mois non plus. Ça serait pas logique. Je vous rappelle que la filature doit être la moins intrusive que possible. Puis ça doit aussi être raisonnable dans les moyens, c'est-à-dire ça doit se faire dans des lieux publics généralement. On ne va pas faire suivre, comme je disais tantôt, la personne à l'intérieur de sa maison, de sa propriété. Ça doit être fait de la façon qui va porter le moins atteinte que possible à sa vie privée et qui va être justifié dans les circonstances.
Si l'employeur veut surveiller des éléments au bureau, bon, l'ordinateur d'un employé, le filmer dans ses locaux, écouter ses appels téléphoniques, etc., etc., est-ce que ça, c'est plus simple pour l'employeur?
C'est un peu plus simple, mais ça demeure couvert par la vie privée dans certains contextes. Je vous donne l'exemple d'un téléphone de bureau que je peux utiliser pour faire des appels personnels. L'employeur le permet, puis il tolère ça. À ce moment-là, moi, j'ai une expectative de vie privée lorsque je prends le téléphone. Donc, pour pouvoir mettre sous écoute ma ligne téléphonique, l'employeur doit encore une fois avoir des motifs raisonnables. Mais c'est sûr que de mettre sous écoute une ligne téléphonique au bureau, c'est pas mal moins intrusif qu'une filature à l'extérieur du bureau. Donc, c'est plus simple dans ce sens-là pour justifier la surveillance, mais ça peut quand même être couvert par la vie privée. Donc, il faut être faire très attention.
Je suppose qu'il y a des conséquences si un employeur décide de faire de la surveillance illégale?
Tout à fait. Bien, en cours, on va aller devant les tribunaux, on dépose la preuve. La preuve va être rejetée, tout simplement. Donc, le juge n'en tiendra pas compte. Et dans un deuxième temps, ça ouvre la porte à des dommages moraux. Donc, l'employé pourrait poursuivre l'employeur pour atteinte à sa vie privée sans motif raisonnable de le faire. Donc, c'est certain qu'il y a des risques. Je vous dirais que quand on consulte avant de prendre cette mesure-là, généralement, on étudie toutes les options. On ne peut pas garantir que la preuve va être recevable, mais on peut au moins garantir qu'il y avait une bonne raison.
On se protège contre une poursuite à tout le monde.
Exactement, exactement.
Bon, comme avocat, là, si une preuve, exemple, vidéo est admise, ça ouvre la porte à des interrogatoires assez juteux, je présume. Là, il y en a, passe-moi l'expression, qui doivent s'enfarger dans leur menterie, Philippe.
Ah, tout à fait. Puis ça, c'est toujours des grands moments dans un procès. Généralement, on met la table là, avant de déposer ces preuves-là. C'est-à-dire, on pose des questions pour finalement mettre l'employé dans une boîte, dans un coin.
Comme ça, monsieur, mais disons, Jean, vous avez trop mal au dos, vous n'êtes pas capable de faire des efforts physiques.
Exactement.
Vous n'êtes pas capable de travailler, vous n'êtes pas au travail depuis 6 mois.
Exactement.
Alors lui, j'ai mal au dos, je ne suis pas capable, je suis toujours couché ou à peu près.
C'est ça, et là, vous sortez la preuve vidéo ou l'enregistrement. Il va avoir une objection qui peut avoir lieu. Et là, lors de cette objection-là, justement, le juge devra trancher si c'est admissible ou pas. D'où l'importance d'avoir les motifs raisonnables avant de faire l'enquête. Si c'est admissible, là, c'est sûr que c'est un grand moment parce que, naturellement, la crédibilité aussi de la personne, de l'employé dans ce cas-là, est complètement égratignée dans un cas comme ça. Là.
Avant de se laisser, Philippe, parce qu'on est en 2019, si le patron n'a pas engagé un enquêteur privé, mais qui tombe sur une vidéo compromettante pour un de ses employés sur les médias sociaux, est-ce qu'il peut automatiquement s'en servir ou il y a quand même un certain encadrement au niveau de la loi?
On a fait une chronique, je pense que c'était une de mes premières l'année passée. Il faudrait y revenir parce que c'est un sujet qui évolue énormément. C'est une très bonne question, puis on pourrait y revenir dans une prochaine chronique. Mais oui, il peut s'en servir, mais il y a quand même des balises là aussi sur les réseaux sociaux.
Bon, alors à suivre, peut-être la semaine prochaine.
Oui, tout à fait.
C'est effectivement un sujet là, qui doit évoluer rapidement parce que les médias sociaux, il y a quelques années, c'était à peu près pas encadré. Là, ça avance à vitesse grand V.
Exactement.
Merci, Philippe.
Merci.
Bonne semaine.
Bonne semaine.